Nous sommes en 1180-1190, dans un village du sud de la France. Une famille se rend régulièrement à l'évêché, dans la petite ville de Die. Est-ce que quelques-uns connaissent la ville de Die? C'est un endroit à voir et à boire, ce qui ne gâche rien. Il y a déjà un semblant de clairette à l'époque, mais ce n'est pas de cela qu'on va parler maintenant. Cette famille se rend régulièrement à l'église, et puis voilà que un personnage passe par le village, ou la petite ville. Ce personnage met un petit peu sans dessus dessous les gens sur son passage. Il s'appelle Pierre Valdo. C'est un commerçant lyonnais qui découvre l'Évangile. Il ne peut plus rester insensible. Partout où il passe, il prêche l'Évangile. Il dit ce qu'il y a dans l'Écriture. Il va même mettre sa fortune pour pouvoir traduire l'Évangile en provençal. Il va être persécuté, ce personnage, et va se réfugier en Italie, où il va fonder l'église vaudoise. Mais revenons dans notre petit village. Nous sommes dans ce petit village et une famille écoute ce que dit ce passant. Et puis voilà qu'ils sont touchés par l'Évangile. Ils ne peuvent plus se taire, alors ils se mettent à témoigner de l'Évangile à droite et à gauche, au point même qu'on leur dit « dehors ». Votre commerce que vous avez a dit « dehors ». Vos terres que vous avez autour « dehors ». Ils vont faire une quinzaine de kilomètres à pied, avec leur famille, différentes personnes sont touchées à ce moment-là, un frère, une sœur, et petit à petit, toute la famille se convertit. Ils se réfugient dans un petit village où il n'y a rien d'autre qu'une citerne pour avoir de l'eau, mais cela suffit pour cette famille pour commencer un travail dès le XIIe siècle. D'année en année, ils cherchent à connaître l'Évangile et le propagent dans les villages autour d'eux. De nombreuses personnes sont touchées. Un culte s'organise. Le temps passe. Il y a de génération en génération des personnes qui ont pour seul intérêt propager l'Évangile. La réforme a lieu, et cet endroit n'est pas encore touché vraiment par la réforme dès le départ, mais ils adhèrent aux thèses de la réforme, ce qu'ils entendent de Luther, ce qu'ils entendent de Calvin, ce qu'ils entendent d'autres personnages comme Bucer ou comme Zwingli. Ils évoluent, ils changent, le culte n'est pas le même quand ils étaient juste la famille et puis maintenant qu'ils sont une cinquantaine, une centaine, voire plusieurs lieux de culte. Et puis nous faisons un petit bond au XVIIe siècle. Un membre de la famille est surpris dans la vallée de Chamarges. C'est un endroit qui se trouve entre ce village-là et la ville de Die. Il a sur lui quelques pages de l'Évangile de Jean. Cette famille a poursuivi l'intérêt pour la parole de Dieu. Ils sont là avec des gardes et ils viennent se saisir de ce jeune homme qui, à 17 ans, est en train de transmettre quelques pages de l'Évangile de Jean d'un endroit à l'autre. Il est arrêté, il est envoyé à Marseille, puis il est envoyé aux galères. Il doit faire quelques années, mais il reviendra quelques 50 ans plus tard. Il va se marier et va continuer ce qu'il faisait aussi sur le bateau, propager l'Évangile, les quelques versets bibliques qu'il a par cœur, appris dans son jeune âge. Et puis, nous sommes dans les années un peu plus propices à l'Évangile. Il y a la création d'une école biblique à Die, qui sera ensuite fermée, toujours par cette même famille. Et puis on arrive à une vieille dame, il y a une douzaine d'années, qui voit son petit-fils, et j'ai quelques heures avant de mourir, et qui lui dit, Est-ce que tu vas bien devenir pasteur à ton tour ? C'est une dame qui est dans la lignée de ces gens depuis le XIIe siècle. Elle interpelle son petit-fils et lui dit « Est-ce que tu vas devenir pasteur ? Car il faut continuer à propager l'évangile. » Cette dame décède. Son petit-fils est en train d'entamer plusieurs ministères pastoraux. Et puis, il y a 4 ans, cet homme apprend que sa maman est sur le point de mourir. Et la veille du décès de sa maman, il est avec elle. Et ils discutent. Et la maman lui dit « On va prier pour que l'évangile continue dans la famille. Et on va prier pour mes frères et ma sœur. » 84 ans, 82 ans, 79 ans. Cette dame décède le lendemain et juste avant de mourir, elle appelle son fils et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui répond « Je suis à l'étude biblique. Prêche l'évangile. Rien que l'évangile. » Et cette femme décède 20 minutes plus tard. Ce monsieur, qui est pasteur, c'est moi. Et c'est mon histoire que je raconte. Je remercie Dieu de ceux qui m'ont précédé. Ah, quand je retrouve des pages qui ont été écrites par ceux qui m'ont précédé, quand je reprends le parcours des uns et des autres, quand je revois la petite communauté qui se réunissait encore il y a quelques années dans la maison de mes parents, quand je vois que ceux-ci ont su s'adapter et ont rejoint d'autres communautés qui se trouvent à Die, je me dis quel devoir j'ai de continuer à rappeler autour de moi que l'Évangile, et seulement l'Évangile, transforme les cœurs et fait de chacun d'entre nous des enfants de Dieu, parce que c'est le message de l'Évangile. Mais ce n'est pas terminé. Effectivement, mon papa est juif, et était juif, ou comment je dois dire, il est décédé aussi il y a quelques années. Et mon papa a trouvé l'Évangile tout seul, entre guillemets. Il était sur le mont Sinaï, mon père est né en Israël, mon grand-père aussi, et il était sur le mont Sinaï avec l'armée anglaise, car il était dans l'armée anglaise à l'époque, et il rentre dans une église, et il voit écrit sur un mur « Si on te frappe sous la joue droite, tends la joue gauche. » Vous connaissez ce verset ? Ce n'est pas celui qu'on préfère le plus, hein. Surtout quand on doit donner la gifle, ou quand on la reçoit. Mon père se tourne vers un militaire et lui dit « C'est qui a écrit ça ?» Et le militaire lui dit, qui lui n'est pas croyant, dit « Je crois que c'est Jésus. » Et à partir de ce moment-là, mon père n'a cessé de chercher qui était l'auteur de cette phrase. Car dans sa tête, il a pensé cela en 1937, il n'y a que Dieu qui peut dire cela. Il n'y a que Dieu qui peut proposer cela. Alors il allait d'église en église, et pour faire court, il a rencontré ma maman dans une étude biblique. Et aujourd'hui, je suis là, et mon frère est aussi engagé à plein temps pour le Seigneur. Ma sœur aime aussi le Seigneur. Je voulais commencer cette petite histoire non pas pour attirer une gloire quelconque sur ma propre famille, mais juste sur le fait que la réforme, c'est un retour à la parole de Dieu, un retour à l'amour de ce qui est contenu dans la parole de Dieu, à l'amour de l'auteur de cette parole de Dieu, car il n'y a pas autre chose que le fond du cœur de Dieu qui est transparé dans l'Écriture qui puisse toucher mon prochain. Les réformateurs, Il y en a eu dans ma famille, certains connaissent peut-être les réveils de la Drôme, les brigadiers de la Drôme, des gens qui vont sillonner tout un département et ils vont aller de village en village pour annoncer l'Évangile. Ils auraient pu dire « revenez à des chants anciens » ou « mettez des chants nouveaux » ou « passez un vidéo... » Bon, vidéoprojecteur à l'époque, c'est peut-être pas... Mais ils ont simplement dit « peu importe la forme, gardez le fond. » Gardez le fond car c'est aussi ce que Luther a fait. C'est parce qu'il a été interpellé par l'Écriture qu'il a interpellé ses congénères. Idem pour Calvin, idem pour les grands réformateurs. La réforme, c'est un retour au fond, peu importe la forme, a priori. D'ailleurs, reprenons un peu les réformateurs les uns après les autres, ou je laisserai ça à Laurence, qui est bien plus calée que moi là-dessus. Mais les réformateurs se sont souvent disputés. Nous ne nous disputons pas ensemble en Belgique, bien sûr, mais... Les réformateurs se sont disputés des fois pour le fond, mais surtout pour la forme. Ils se sont disputés bien avant nous sur les carnets de chants, bien avant nous sur la quantité d'eau pour le baptême, bien avant nous sur la reconnaissance des uns et des autres. Il me semble que l'Écriture m'interpelle, même si j'ai ma doctrine et si j'ai des idées précises, d'abord sur le fait que Christ est mort pour moi. À cause de mes péchés. Et ceci est un langage universel. Quel est le slogan de mon Église ? Venez chez moi parce que ça bouge. Ça ne donne pas plus de sens à l'Évangile. Venez chez moi parce que l'Évangile nous bouge. C'est peut-être la bonne formule qu'il faudrait reprendre. Retrouver l'essentiel. Retrouver l'essentiel me pousse à ouvrir l'Écriture dans l'Évangile de Jean avec vous. Au chapitre 1. Pourquoi revenir au Jean chapitre 1 ? Parce que j'aime la manière dont est introduit cet évangile, au commencement. Il faudrait peut-être que chacun d'entre nous, pour pouvoir reprendre du sens à l'évangile, revenir au commencement. La chose que je retiens de mes ancêtres depuis le XIIe siècle, ce pourrait être le fait qu'ils ont lancé une mission en Argentine, une autre au Brésil. Peut-être le fait qu'ils ont été à l'origine de nombreuses églises. Peut-être le fait qu'il y a eu de nombreux pasteurs qui se sont battus pour, ou plutôt contre, d'abord le libéralisme qui existait déjà un certain temps, mais aussi pour que des âmes soient gagnées. Je pourrais mettre cela en avant, mais ce que je retiens et ce qui m'a toujours été transmis et par ma maman et par ma grand-mère, et par le souvenir qui était entretenu de ceux qui m'ont précédé, ce ne sont pas les individus, c'est l'Évangile. Je suis au bénéfice du commencement. Lisons ensemble ces versets. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'était pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. J'ai prié avec ma maman quelques heures avant qu'elle décède, et nous avons prié pour son frère, ses deux frères et sa sœur, qui ont entendu l'évangile de la part de mes grands-parents, certainement plus d'une fois, qui ont fait des camps, qui ont dû entendre de la part de ma mère, quand elle s'est convertie à l'âge de 16 ans, dans un centre de vacances à Dulphy, plein de choses aussi. Ma maman est décédée début octobre. Le 15 décembre, j'étais invité au baptême de mon oncle. Et intéressant, il pleurait d'une chose. Pourquoi j'ai tant attendu pour communiquer l'évangile? Il aurait pu dire, on aurait pu aller plus souvent à l'église. Mais si communiquer l'évangile, ce n'est qu'à l'église, alors cela est peu de chose. Le jour de son baptême, âgé, avec quelques problèmes pour se déplacer, on lui a proposé, non pas l'immersion, mais une autre manière de faire. On avait peur de le perdre dans l'eau, peut-être. Et il a dit, non, comme Jésus. Et quand il est sorti de l'eau, il y avait ses enfants, comme mon âge, même un peu plus âgé, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et vous savez ce qu'il a dit en sortant, la première chose ? Il est temps que je porte du fruit. 84 ans. Quel est ce fruit aujourd'hui ? Il enquiquine ses voisins. Il enquiquine ses enfants en distribuant des évangiles, en les incitant à écouter la parole de Dieu. Car c'est elle qui, au commencement, était là. Et elle est là au commencement de chacune de vos vies, si vous avez accepté Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait du commencement ? Êtes-vous si attaché à votre église, au bâtiment, au rite, que vous en oubliez la parole ? La parole qui nous donne vie, mais qui nous nourrit aussi, n'est-ce pas Jésus qui dit « Je suis le pain de vie » ? N'est-ce pas Jésus lui-même qui ici est décrit et qui fait de nous, ses enfants, la parole, c'est elle qui nous unit parce que c'est elle qui nous a trouvés. Finalement, Jean-Baptiste, c'est un réformateur. Revenez à l'Écriture, repentez-vous. Le message n'est pas nouveau. Mais peut-être que pour nous, le message est trop fort. Quelqu'un me demandait récemment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui se convertissent dans nos églises ? Alors j'ai peut-être bêtement dit, mais la dernière fois que vous avez fait un appel, c'était quand ? La dernière fois que vous avez interpellé les gens sur leur statut par rapport au péché, c'était quand ? Le message n'a pas changé. Nos églises peuvent être différentes. Déjà, Paul dit, il y en a qui prêchent avec envie, avec des mauvaises intentions, mais pourvu que l'évangile soit prêché. Quel est cet évangile ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce message est inscrit en grand dans nos vies ? Je suis d'origine juive et nous n'avons jamais eu ça à la maison, mais vous connaissez, les juifs, ils ont une messouza. Vous savez, c'est des rouleaux qui sont comme ça ressemble à des rouleaux, et c'est collé au-dessus de la porte chez eux. Si vous voulez savoir si une famille est juive, vous regardez, messouza, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des rappels de versets de la Bible. C'est le Shema Israël qui se trouve là. « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un », etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dans nos vies, dans nos familles, dans notre environnement, Nous avons souvent la moderne habitude de dire que c'est par nos gestes que les gens viendront au Seigneur. Il y a des gens bien meilleurs que chacun d'entre nous ici et qui ne sont pas croyants. Je dis bien, bien meilleurs que chacun d'entre nous. Il y a des religions qui poussent à bonnes œuvres. Et ces gens additionnés font certainement, au moins d'un point de vue social, de meilleures œuvres que chacun d'entre nous. Est-ce que je crois encore à la puissance de l'Évangile? Est-ce que je crois que c'est un souvenir? Est-ce que je crois qu'il n'y a que les œuvres qui sont capables de montrer Jésus-Christ? C'est d'abord la parole de Dieu. Revenir non pas à la forme, mais au fond, c'est tout le cœur de la réforme. J'aimerais prendre avec vous le plus grand flop d'évangélisation de l'Écriture. Vous savez où ça se trouve? Je regarde les théologiens. Un flop? Jean 6. Enfin, un flop, vous allez voir. Nous allons voir. Il y a comme ça dans l'Écriture des textes et nous nous arrêtons sans lire tout le texte. Car ce que Luther a engagé, ce que Calvin a continué, ce que mes ancêtres ont aussi engagé, c'est que ce n'est pas simplement du picorage de l'Écriture que nous avons besoin. Ce n'est pas juste de prendre les petites choses qui nous intéressent, mais de prendre toute l'Écriture. Alors nous allons lire un gros morceau d'Écriture. Jean 6, épisode mémorable, la convention, 5000 personnes avec les familles, ça fait beaucoup. Ce n'est pas 20 euros par personne, c'est 1 euro par personne, on a les 14 000 euros, voilà. C'est Samuel qui parlerait comme ça. Hein. Mais s'ils mettent 20 euros, c'est mieux. Hein. Nous retenons quoi avant de lire le texte? Jésus fait un miracle, c'est juste? Qui c'est qui est d'accord avec moi? Levez le bras, hein, vous pouvez, personne ne vous prend en photo, vous pouvez lever la main. Voilà, voilà. Hein, ici, vous pouvez être vous-même. Hein. Est-ce que Jésus fait un miracle? Bien sûr qu'il va en faire un. Et il va en faire un que nous racontons à nos enfants. Enfin, sauf les jours où on doit multiplier les choses qu'ils n'aiment pas à manger et qu'on doit se battre à table. Mais ça, c'est un autre problème. Mais nous allons lire ce texte-là et vous allez voir que nous ne sommes pas des réformateurs. Nous en oublions quelque chose. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, Jean 6, verset 1, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et c'est une fête importante avec le salon du prêt-à-porter. Mais c'est important pour les Juifs, cette fête. Ça leur rappelle la sortie d'Égypte. Et surtout, en temps d'oppression, ça leur rappelle que Dieu les a sortis du pétrin et du pain sans levain. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Voilà une bonne question. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Fais installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit le même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui en avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient « Waouh !» Enfin, c'est pas marqué, mais moi je pense comme ça. « C'est vraiment lui !» Le prophète qui vient dans le monde. Wow. Première partie, yes. Hein, Eric, rue du Moniteur, 15 services le dimanche matin. On est bien parti? C'est là-dessus qu'on s'arrête d'habitude, non? Allez, il faut continuer. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau toucha la terre là où ils allaient. Franchement, comme miracle, ils en ont eu un morceau là à l'instant. Hein. Et là, ils voient Jésus marcher sur l'eau et ça, ça leur fout la pétoche. Mais ce n'est pas terminé. Le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté en bateau avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils dirent alors, « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyons ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. » La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Yes, super, non ? Les Juifs maugréaient à son sujet, parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment peut-il dire « Maintenant, je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas à moi. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Viens à moi. » Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu, lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Avant que je continue, on ne lit pas souvent la suite de ce grand miracle du pain et des poissons. Pourquoi ? Parce que, comme les gens de l'époque, nous nous sommes éloignés du message et nous voulons des signes. Ou nous voulons conserver les signes du passé. Des nouveaux signes. Il y a eu la bénédiction de Toronto, il y a eu toutes sortes de bénédictions pour venir supplanter l'écriture qui ne serait pas suffisante. Mais de l'autre côté, une autre mauvaise doctrine serait de dire « Nous allons reproduire mot pour mot ce que ceux qui nous ont précédés ont dit. Conserver la forme du culte, conserver les chants. » Cela ne veut pas dire qu'il faut une révolution et tout changer. Cela veut dire qu'il faut qu'on apprenne de génération en génération à voir la forme comme étant secondaire et regarder à l'effet de la parole en profondeur. Il y a quelques années, des rencontres se sont faites entre les assemblées de frères et baptistes et les pentecôtistes et églises charismatiques en France. La première rencontre a eu lieu à l'initiative des églises baptistes et des assemblées de frères, qui sont allés demander pardon aux églises de Pentecôte, parce qu'ils pensaient que, parce qu'ils étaient nombreux, c'était tout simplement parce que le message était léger. Et la critique était bienveillante. Les pentecôtistes sont grands parce qu'ils annoncent un évangile liquide. Le responsable est venu demander pardon au nom de l'union, des unions d'église. Quelques mois plus tard, ce sont les pentecôtistes qui sont venus, avec les charismatiques, venir demander pardon parce qu'ils pensaient que eux, ils avaient des grandes églises et nous n'avions pas l'esprit. Et reconnaissaient que l'esprit était aussi parmi nous. La forme, ce qu'on voit. Une grande église, des petites églises, ce n'est pas ça qui fait la taille de la bénédiction. Ce sont les cœurs qui sont touchés. On peut être dans une petite église où personne n'est au Seigneur. On peut être dans une grande église où tout le monde est au Seigneur et vice-versa. Ne regardons pas à la forme, mais regardons si l'évangile est bien prêché. Si l'annonce, non seulement des doctrines que nous croyons justes, est faite, mais si on interpelle encore le pécheur pour qu'il rentre dans le chemin et la maison de Dieu. Mais nous sommes ici, 5000 personnes avec les familles, et voilà que le lendemain, je traduis ça dans mes mots, Jésus leur dit, ceux qui sont venus pour les sandwichs, eh bien aujourd'hui, il n'y a que du gluten. Il n'y a que ceux qui... Voilà. Qu'est-ce qu'ils demandent? Il leur dit, vous êtes venus à cause des signes et vous en demanderez d'autres. Et ça ne vous suffira pas, il en faudra d'autres encore. Est-ce que vous êtes venu et est-ce que vous êtes capable de me reconnaître, moi, comme étant le Messie? Verset 53. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette histoire. Jésus leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Voilà ce qu'il dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont l'esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. La veille, ils sont 5000 avec famille, et là, dans quelques versets, dans le verset suivant, ils ne sont plus que 12. Il faudrait lire l'histoire jusqu'au bout. Nous n'attirons pas nos enfants en leur parlant des miracles. Nous pourrons leur parler de Jésus comme étant celui qui peut toucher leur cœur, que celui qui peut habiter dans leur cœur. Celui qui peut les prévenir, comme on l'a entendu tout à l'heure, tout au long de leur vie, de choses tellement difficiles que pour certains, il est impensable de croire qu'il existe un Dieu qui est bon. Verset 67. Tout le monde est parti. Les religieux, les pas beaucoup religieux, les familles, les enfants. Vous imaginez une campagne ainsi faite ? Mais voilà que Jésus continue. Et il nous interpelle aujourd'hui pour savoir si nous sommes des réformateurs ou des conservateurs. Réformateurs ou conservateurs ? Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ?» Et on se souvient maintenant des paroles ?« Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ? Pourtant, l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12. Quelle est la réponse à Jésus ? Qu'est-ce que Jésus pourrait vous poser comme question aujourd'hui ? Eh bien, la même question. Et tu n'as pas envie de t'en aller ? Tu n'as peut-être pas eu de réponse à tes prières depuis longtemps ? Tu es peut-être malade ? Tu es divorcé ? Tu as peut-être toutes sortes de difficultés ? Il est où, Dieu ? Il ne répond pas à tes besoins. Le sandwich pourrait être remplacé par plein de choses. Et Jésus dit à ses disciples, « Vous ne voulez pas vous en aller ?» Et nous avons cette merveilleuse déclaration de Pierre. « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La réforme, c'est s'attacher au fond, c'est-à-dire à ces paroles de Dieu qui veut que tout homme entende l'Évangile, qui veut que tout homme ait la possibilité de se tourner vers lui. Qu'avons-nous fait de nos églises ? Des musées ? Des endroits où on conserve religieusement, c'est le terme, hein, une tradition ? Je ne m'étonne même pas que nos jeunes s'en vont. Non pas parce que ils ne veulent pas de l'Évangile, mais parce que trop souvent, nous en prêchons les signes, mais pas le fond. Repentez-vous. C'était le message de Jean-Baptiste. Il y a quelques années, 18 ans presque. Certains s'en souviennent parce que j'étais allé à la rue du Moniteur à l'époque. Nous avions un petit garçon qui était malade et il est décédé. C'était un dimanche matin quand le téléphone a sonné, il était à l'hôpital. Et à l'époque, quand un numéro était caché, c'était souvent des administrations. Nous nous sommes rendus à l'hôpital l'après-midi. J'étais en train de prêcher quand j'ai vu le téléphone vibrer. Il est décédé le soir même. Vous savez quelle était la question que je me suis posée ? Parce que jusqu'au dernier moment, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai prié le Seigneur qu'il puisse ressusciter mon fils. Et il n'est pas ressuscité. Et je me suis posé toutes les heures et demie de route entre Marseille, la Timone, et là où nous habitions, à Orange. Est-ce que je peux dire que Dieu est bon ? Est-ce que je peux dire que Dieu est bon ? Car si je ne peux plus le dire, alors je ne peux plus exercer mon ministère pastoral. Notre petite fille nous a posé la question, où est Samuel ? Elle avait à peine 2 ans et demi. Elle dit, où est Samuel ? Je lui dis, ben, il est avec le Seigneur. Alors elle me dit avec des grands yeux, il est guéri ? Je dis, là où il est, oui. Alors il va revenir ? Je dis, non. Et alors elle nous a dit d'une manière abrupte, alors je ne veux plus qu'on me parle du Seigneur. Ça a rajouté une couche. Quel est l'Évangile que je prêche ? une victoire sur ces quelques années que Dieu nous prête sur cette terre, ou la victoire du Christ pour l'éternité? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons passé 3 jours. Des non-croyants nous ont prêté un appartement. C'était difficile, mais en revenant, j'avais l'assurance que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Je ne peux pas comprendre pourquoi mon fils est décédé. Et le comprendre ne me donnerait aucune consolation. Mais je veux croire que Dieu est bon. Et il me l'a prouvé en se sacrifiant lui-même à la croix. Le message au commencement. Quelques années plus tard, j'écoute ma fille parler à son petit frère, plus jeune, et elle lui dit, « Tu sais, tu avais un grand frère. Il n'est plus là, il est avec le Seigneur. » Aujourd'hui, mes enfants marchent avec le Seigneur, ils ont 19 ans et 15 ans. Je souhaite que cela continue. Mais j'insiste toujours pour que ce ne soient pas les événements, nos expériences, même nos églises, même l'ambiance de nos églises qui poussent les gens à venir au Seigneur, mais bien la parole qui y est prêchée. Nous nous disputons sur des points annexes, même à l'intérieur de nos mêmes unions d'églises. Nous avons toutes sortes de raisons de défendre notre point de vue. Il peut y avoir des points de vue qui sont hérétiques, là je suis d'accord de les écarter. Mais combien de fois nous exerçons plus les signes que le fond? Quand est-ce que la dernière fois nous avons parlé de cette vie éternelle qui ne dépend pas des événements que nous avons sur cette terre? J'aimerais terminer avec plusieurs citations de gens que je considère aussi comme des réformateurs. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, je le cite, « Je souhaiterais d'avoir 100 vies, elle serait toute consacrée à mon Sauveur pour la cause missionnaire. » Charles Stud, au Congo. « Dieu m'a appelé, j'irai. Il faut que je parte en éclaireur pour que des plus jeunes puissent suivre, même si ma tombe doit leur servir de marchepied. » Le général Booth, armée du salut. « Que Dieu m'aide à cultiver en moi l'esprit d'abnégation et à prendre esclave volontaire, le joug du Rédempteur du monde. » Un homme moins connu, mais que j'aime beaucoup aussi, François Collard, missionnaire en Zambie. « Je désire vivre de cette vie cachée avec Christ en Dieu qui ne sait se manifester au dehors que par des actions et non par du bruit. » Ça m'introduit avec le sujet de cet après-midi. Je désire vivre de cette vie cachée avec Christ en Dieu qui ne sait se manifester au dehors que par des actions et non par du bruit. Luther, Calvin, mes ancêtres qui ont perdu un tas de terrains où j'aurais peut-être aujourd'hui des droits sur des clairettes de Die gratuites. Mais non, je possède un terrain qui nous a été cédé depuis le XIIe siècle. Il fait 4000 mètres carrés. Valeur du terrain, 12,50 euros. Une pente incroyable. Une vue imprenable. Un accès... Bonne chance. Mais ce n'est pas ça qui me reste. Il me reste le fait qu'ils ont sacrifié quelque chose à l'exemple de leur Seigneur. Ils ont su sacrifier d'abord ce qu'ils possédaient. Ils ont mis l'argent vraiment pour pouvoir aider à ce que la Bible soit traduite. Beaucoup de ces missionnaires ont donné leur héritage, de la fortune acquise par leur famille pour pouvoir subventionner leur ministère. Mais surtout, chacun des personnes que j'ai citées, et je pense à mes ancêtres, particulièrement celui qui a eu du courage de revenir de galère, de se marier et d'avoir des enfants, puisque je suis là, ils ont sacrifié leur vie pour leur Seigneur. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle nous ne grandissons pas ou peu, c'est que nos sacrifices sont peu ou pas. Réfléchissons quelques instants avant que je m'arrête. Qu'est-ce que je sacrifie pour le Seigneur? Quel est le confort que je suis prêt à sacrifier? Est-ce que c'est peut-être ma position, mon honneur, mon orgueil? Est-ce que je crois que je ne suis qu'un ouvrier devant le Seigneur et que c'est le Seigneur qu'on doit voir? C'est ce que je crois profondément. Prenons un instant vraiment pour réfléchir à nous positionner par rapport à Dieu. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? À quoi je tiens tellement? Et cette chose qui devient un obstacle pour témoigner de cette parole, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Rester connecté à Dieu, un seul moyen, la Bible, la parole de Dieu, la prière, car j'aurais pu prendre encore quelques heures et vous parler de la vie de prière de ma grand-mère, de ma mère, qui jusqu'à quelques heures avant de mourir, prend du temps pour prier pour ses frères et sœurs. Oui, mon oncle s'est fait baptiser et ma tante vient de demander le baptême à 86 ans maintenant. Et un de mes oncles me dit « J'aimerais retrouver ma Bible. » Le plus jeune, celui qui a 80. Je crois que la prière est importante, car elle est aussi la réponse à la parole de Dieu qui nous est donnée. Je crois que rien ne se fait sans sacrifice. Il a commencé par celui de Jésus-Christ et celui maintenant de chacune de nos vies. Nous chantons facilement « Tout appartient ». Mais nous sommes des conservateurs. Nous nous rappelons juste de la forme du chant, mais de là à mettre les choses en pratique. Pour l'instant, restons connectés. Prenons la Bible, la parole de Dieu, comme étant la source de notre vie éternelle, qui commence aujourd'hui. Amen.